Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vous propose que nous ouvrions notre Bible dans un premier temps dans l'évangile de Matthieu. Alors, Matthieu chapitre 7, alors c'est Jésus qui dit ces paroles, on les trouve dans le sermon sur la montagne, et il dit ceci: « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? » Jésus de conclure, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. On est d'accord. C'est vrai. Maintenant, quelquefois, on peut l'oublier. Ne jugez point, car on vous mesurera du jugement que vous avez utilisé pour les autres. Et à ce titre, eh bien, on pose le principe, donc, qui est défini par Jésus dans l'évangile de Matthieu. Et maintenant, nous allons voir l'histoire réelle. Et ça se trouve dans l'Ancien Testament, dans un autre passage. Ça, c'est le principe. Jésus a parlé avec des principes. Il a remis des principes en place. Hein, dans l'Ancien Testament, c'est souvent des commandements, des lois, tu ne feras pas, tu feras, etc., etc. Jésus va nous forcer un petit peu dans la réflexion pour remettre, en tous les cas, spiritualiser la loi de Dieu, les commandements de Dieu, leur donner un caractère non pas de commandement et de devoir, mais un principe sur lequel ou pour lesquels nous allons adhérer parce que nous aimons. Et ça, c'est autre chose que le devoir. Faire les choses dans le devoir, c'est une obligation et c'est astreignant, mais Jésus nous enseigne à travers tout le Nouveau Testament, enfin l'Évangile en tous les cas, eh bien qu'il y a une autre façon d'aborder les choses, et si je ne juge pas autrui, c'est donc seulement parce que je ne veux pas être jugé moi-même en retour, mais c'est parce qu'il y a une autre dimension, c'est que par amour je ne vais pas le faire pour l'autre. Alors on va voir donc le principe, c'est fait, on va voir l'histoire réelle, et pour ce faire, je vous propose que nous ouvrions notre Bible. Dans l'Ancien Testament, je vous ai dit il y a un instant, chapitre 12, voilà. Donc, chapitre... Alors, je vous ai pas du tout, hein. Ah, mais oui, mais ça va venir. Ne soyez pas impatients. 2 Samuel 2 Samuel. Alors, 2 Samuel, chapitre 12, et là, on peut parler de... Eh bien, de la mise en pratique, ou... de ce qu'il ne faut pas faire. Hein, Jésus nous donne ce qu'il faut faire, et il nous en donne aussi les conséquences. Et c'est l'histoire de David. Alors, David, c'est un homme que nous connaissons bien, c'est un grand personnage de la Bible, de l'Ancien Testament. Il était appelé l'ami de Dieu, c'est un homme de foi. C'est un homme qui avait tout son cœur pour Dieu. Hein, il a écrit des poèmes, il a écrit des psaumes, enfin, pas mal en tous les cas. Et on peut dire que un homme qui avait la foi en Dieu, mais il n'était pas parfait, et on va le découvrir dans ses œuvres, malheureusement, dans des moments où il a chuté, et il s'est prêté, finalement, eh bien, à un jugement, lui qui était le roi d'Israël, il était habilité à juger, hein, c'est un roi, c'est quand même, c'est pas n'importe qui, et nous apercevons que là, il a fait une erreur monumentale, parce que ça le concernait. Mais, on va lire. On va voir ça. Donc, l'histoire réelle, il s'agit tout simplement du péché, de la faute de David. Il n'y en a pas eu qu'une. Mais il y en a une qui était tout à fait caractérisée parce que il a rebondi dans le mal à plusieurs reprises. Et c'est ça le problème. Et après, il a dit, mais moi, j'ai rien fait, hein, je suis innocent. C'est là où, justement, nous allons voir un peu le détail. Donc, je vous ai dit 2 Samuel chapitre 12 et nous allons lire, eh bien, une partie de ce chapitre. Alors, on va prendre le temps. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan, c'est le prophète de l'époque. Hein. Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée, il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, c'est une métaphore hein, naturellement, hein, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, naturellement celui de la parabole, hein, c'est imaginaire. Et il dit à Nathan, le prophète, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié, sans miséricorde. Et Nathan, le prophète, dit à David, « Tuez cet homme-là. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein des femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. » Alors, les sanctions sont assez difficiles, c'est l'Ancien Testament. « Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil. » David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Alors c'est vrai que c'est assez... c'est particulier, hein, à la fin de ces choses. Mais on va voir par le détail ce que peut comporter finalement le jugement sans miséricorde, le jugement hâtif, quoi qu'il n'était pas dans ce cas-là, et le jugement partial, hein, parce que ça le concernait personnellement, et il ne savait pas que ça le concernait. Mais quand il a vu que ça le concernait, c'était une autre affaire. Hein. Il a pris conscience qu'il avait dépassé toutes les mesures. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Parce que l'application de ce principe, à défaut, c'est qu'un jour ou l'autre, si nous avons été sans faire grâce, sans miséricorde, implacable, inflexible, comme l'a été David, eh bien, il faut s'attendre à un moment ou à un autre pour peut-être donner une leçon qu'un jour ou l'autre, ça nous arrivera. Et là, nous comprendrons le mal que nous avons fait. Peut-être à un innocent, parce que c'est une affaire d'innocents, là, dans cette affaire. Les victimes de David, ce sont des innocents. Ils ont été pris au piège. Et à ce moment-là, lorsque nous passons par une situation semblable, eh bien, nous disons vraiment, c'est terrible. Ça fait mal. Et c'est ce qui a amené... Eh bien, tout simplement, David a se tourné vers le Seigneur pour lui demander pardon. Voilà. Il a compris que quand on fait le mal, ça fait du mal. Ça fait du mal aux autres. Mais quand il y a le retour, alors à ce moment-là, on en voit la douleur et les blessures que ça peut occasionner. Donc, l'histoire réelle, on vient de la lire, et il s'agit du péché de David, qui n'est pas explicité, mais enfin bon, quelques paragraphes avant, il est question que David, alors au lieu de partir à la guerre avec ses soldats, était resté, lui, à Jérusalem par une belle soirée d'été probablement, et puis il se promenait sur la terrasse de son palais et il a vu une femme qui s'appelle Bathsheba, hein. Et cette femme était très belle, hein, de visage, il nous a dit que c'était une jeune femme, et David qui est en roi, alors qu'il avait déjà des épouses, hein, parce que c'est comme ça à l'époque, il l'a convoitée, et ça devenait irrésistible, une folie lui passait à travers la tête, il s'est dit mais cette femme je la veux, je suis le roi, et quoi qu'il en soit, elle sera à moi. Alors il a fait tout ce qui était en son pouvoir, et il avait beaucoup de pouvoir, on peut se l'imaginer, Donc il l'a regardé, il l'a convoité, et puis séance tenante, et bien il l'a fait venir, et puis voilà, il a consommé, et naturellement consommé avec elle, donc il est tombé dans l'adultère, et avec une nuance, c'est qu'elle aussi était mariée, mais elle l'avait pas choisi. Hein, elle était, c'est le roi qui lui avait donné, intimé l'ordre, finalement, de venir au palais. Alors, et pour se débarrasser de la situation, eh bien, il avait imaginé que le mari de Bathsheba était un capitaine de son armée qui était en train de se battre dans un autre pays, et il a donné l'ordre à ses généraux de dire, vous prenez Uri, le mari de Bathsheba, avec qui, vous savez, il avait couché, naturellement, et vous le mettez au plus fort du combat, comme ça, il va tomber sous les flèches ou, sous les coups de l'ennemi, et personne n'y verra rien. Alors, c'est étonnant que David ait fait des choses pareilles. Lui, l'homme qui est présenté comme un homme, finalement, eh bien, probe, et puis, au-delà de tout soupçon. Et c'est ce qui va se passer, il va donner l'ordre, et Uri va mourir, sur l'ordre de David. Il va disparaître, donc cette femme va être veuve. Ah, naturellement, lui, ça faisait son affaire, parce que, comme ça, c'était un souci de moins. Et pendant à peu près une année, nous dit la Bible, et c'est le psaume 32 qui nous le rappelle, pendant à peu près une année, alors que tout le monde savait ce qui s'était passé. Alors, les grands de son royaume, tous ses proches, même le peuple d'Israël, ne disaient rien parce que c'était leur roi, mais ils savaient très bien ce qui s'était passé. Et là, à ce moment-là, eh bien, il a dissimulé, il a fait comme si rien n'était, comme si, voilà, il a véritablement, comme si rien n'était. Mais à l'intérieur de lui-même, il y avait quelque chose qui se passait. Et il persévérait en disant, je ne le dirai pas, je ne le confesserai pas. Imaginez-vous, un roi qui doit s'humilier devant son peuple pour les fautes qu'il a commises. Donc, il va rester comme ça pendant un an. Et il décrit bien cette situation dans le psaume 32, en disant, c'est comme s'il y avait un feu à l'intérieur. Il savait qu'il avait mal fait. Il avait d'abord, dévoyé une femme, il avait fait tuer son mari, et ensuite il avait fait de la dissimulation pendant des mois et des mois, et ça le brûlait à l'intérieur, parce que c'était un vrai croyant, David. Et il essayait de conjuguer les choses, de rabibocher un peu les deux bouts, si vous permettez l'expression, de dire, mais comment peut-on être un croyant, aimer Dieu, et avoir un tel fardeau dans son cœur? Il était culpabilisé à mort. Et ça a été pendant des mois et des mois, jusqu'au jour où il a craqué. Et puis, voilà, il s'est mis, et on en reparlera tout à l'heure, mais on s'aperçoit que c'était quelque chose, une épreuve pour lui. Mais ça durait un certain temps, mais peut-être que ce temps qui a été un temps probatoire pour réfléchir devant tout cela. Jusqu'au jour où le prophète Nathan va être envoyé par Dieu, c'est ce que nous avons lu il y a un instant, et il va lui dire, tu vas aller voir David, et tu vas lui dire que maintenant son petit manège, c'est fini. Tu vas lui dire la vérité, parce que non seulement tout le monde le sait, lui, il sait ce qu'il a fait, mais il ne veut pas reconnaître, parce que ça serait si simple de demander pardon. Ce serait si simple, finalement, de faire en sorte que la vérité apparaisse dans tout ça. Alors, convoitise, adultère, meurtre, mensonge, dissimulation. Et nous voyons que va venir le prophète avec une parabole. Il n'y en a pas beaucoup dans l'Ancien Testament des paraboles, mais il y en a une. En tous les cas, celle-ci, elle est belle. C'est une belle parabole. Elle est pleine d'innocence. Mais elle a une grande leçon à nous donner à travers tous les temps. Donc l'Éternel envoya Nathan vers David, s'approcher d'un roi pour lui faire des reproches. Faut déjà être quand même assez courageux. Mais des choses vont se faire. Alors Nathan est venu, il lui a dit, mais David, je voudrais te parler de la part de Dieu. Il va pas lui parler directement, il va lui parler à travers une image. Et cette image, on va la relire parce qu'elle est très belle. Il va lui dire, tu sais que il y avait dans une ville deux hommes. L'un était riche et l'autre, il était pauvre. Voilà, ça c'est quelque chose de très compréhensible. Le riche, il était riche avec des brebis, avec des bœufs en très grand nombre. C'est ce qui faisait sa richesse. Par contre, à côté, le pauvre n'avait rien du tout. C'était un pauvre, c'est pour ça qu'il était pauvre. Il n'avait qu'une chose, il n'avait qu'une petite brebis. Une petite brebis qu'il avait achetée, donc ça lui avait coûté pour l'avoir et certainement de la peine pour l'acquérir. Donc, il la nourrissait et elle grandissait donc chez lui avec ses enfants. Elle n'était pas dans la bergerie, mais elle était dans la maison pour montrer tout ce qu'il pouvait y avoir d'intimité et de soins et de tendresse pour cette brebis qui lui avait coûté. Elle mangeait de son pain. Alors, les brebis, ça mange de l'herbe, mais bon, c'est une histoire. C'est une métaphore, tout ça. Elle buvait dans sa coupe, là aussi, c'est assez particulier. Elle dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Donc, ce pauvre, il n'avait qu'une richesse, c'était sa brebis, et véritablement, eh bien là, elle était l'objet de ses soins, de sa tendresse, de son amour. Et puis, il est arrivé dans cette parabole, c'est toujours l'illustration, qu'un voyageur a frappé à la porte de l'homme riche. De nuit, et l'hospitalité orientale, ça ne se discute pas, c'était quelque chose de sacré. Et le riche, quand il a vu ce voyageur arriver, il savait qu'il devait lui donner à manger, peut-être même lui faire un festin, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il n'a pas voulu toucher, bien qu'il soit riche, à ses brebis et ses bœufs, pour préparer un repas au voyageur, comme nous l'avons lu, qui était venu chez lui. Cet homme riche s'est précipité dans la maison du pauvre, sans lui demander quoi que ce soit, et ça c'est une intrusion et c'est du vol, il a pris la brebis du pauvre, il l'a tué, il l'a prêté pour l'homme qui était venu chez lui. Donc point final pour la parabole. Alors on a tous deviné un peu ce que ça voulait dire. On comprend naturellement le sens de tout ça. Il y a ces deux hommes, le riche, qui est riche et qui a bien au-delà, finalement, pour pourvoir aux besoins d'un homme de passage. Mais il est égoïste. Il est égoïste, c'est-à-dire qu'il vit pour lui-même. Comme dans une autre parabole de l'Évangile, vous savez, le cultivateur, et puis qui va mourir d'une crise cardiaque, c'est moi qui le dis, mais la nuit, sans s'être préparé, finalement, à rencontrer son créateur. Donc le riche, c'est un égoïste. Le pauvre, nous l'avons dit, nous l'avons souligné, il n'a que cette petite brebis. Il est amoureux de sa petite brebis. En quelque sorte, si vous voulez le traduire, c'est l'image d'un pauvre homme qui est amoureux de sa femme. On peut le traduire comme ça, si vous voulez. Il est amoureux de sa femme parce que c'est sa seule richesse, ses enfants, sa femme, et on lui a volé, figurez-vous. Vous voyez un peu le rapport qu'il y a, naturellement, entre l'histoire. David, c'est le roi, et il est riche. Le pauvre, c'est Uri. Parce que c'est, on l'a lu, le nom Uri, le capitaine de David, que l'on va mettre sous les murailles de la forteresse de Rabba ou de Raha, je ne sais plus, c'est en pays de Moab, et il va être tué, parce que c'est le roi qui a commandé. Vous faites en sorte que personne n'y voit rien, mais que, comme au plus fort du combat, eh bien, il va recevoir une fâche, il va mourir. Alors, je rentre pas dans le détail, parce que le détail est donné après dans la Bible. C'est pas triste comme histoire. Enfin, c'est triste, mais c'est quand même... on se demande si David n'avait vraiment pas perdu la tête, ce qui lui est arrivé dans cette affaire. Lui, l'homme droit, l'homme qui était probe, l'homme qui véritablement eh bien exaltait le nom de Dieu et avec sincérité. Ça peut arriver à tout le monde de perdre la tête, non? Même les meilleurs. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui est debout prend une garde de tomber. Et c'est pour ça que là aussi, il ne faut pas juger, parce que quelquefois, nous pouvons voir des gens qui dégringolent, qui ont été bien, qui dégringolent, et on commence à leur montrer du doigt. Si ça lui est arrivé, faisons attention, ça peut nous arriver aussi. Pour une bonne raison, non pas que nous tomberons dans les mêmes travers, mais parce que quelquefois nous jugeons, et nous jugeons sans savoir, nous jugeons d'une manière arbitraire, et on se dit, ben voilà, c'est comme ça, et non, il faut faire attention à tout cela. David, donc, c'est le riche, Uri, c'est le pauvre. Le pauvre gênant, parce qu'il devient gênant puisqu'il a pris sa femme, il a volé sa femme à Uri, Bathsheba, donc, et il le fait assassiner. Touchons quelque chose dans notre récit, quelque chose qui est tout à fait particulier par la suite, c'est l'aveuglement du mal. Ouais. L'aveuglement du mal, est-ce que je dois dire le mot? Oh, je pense qu'on ne doit pas avoir honte. L'aveuglement du péché, parce que c'est un péché. Convoitise, adultère, vol, si vous voulez, assassinat et dissimulation, nous voyons que David, cette fois-ci, ne voit plus rien. Il est complètement pris dans sa passion, il ne voit absolument plus rien, et il va avoir à ce moment-là un jugement impitoyable sans miséricorde, c'est ce que nous dit les deux versets suivants. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme dont il avait eu l'histoire. C'est fictif, c'est une parabole, d'accord, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, quand David, le roi, a entendu le prophète lui raconter cette parabole, il se dit, mais allons, ça, il a dû touper quand même, il est riche, il a été chercher la brebis de celui qui n'avait rien du tout, il a tué. C'est quelque chose. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, c'est fictif. Et il dit à Nathan, il dit au prophète, et là, ça va changer le cours des choses, l'Éternel est vivant, parce que ce sont les imprécations sous la forme hébraïque. Hein, les Hébreux, quand ils jugeaient, c'était toujours au nom, ou juraient, ou se prononçaient toujours au nom de l'Éternel. Et quand on disait, quand on mettait le nom de l'Éternel, eh bien là, devant des affirmations, c'est que c'était la vérité, ça ne devait pas être autrement. C'est pour ça que Dieu, à un moment donné, dira, tu ne jugeras pas, tu ne jureras pas. Parce que les jugements, on peut en faire toutes sortes de choses. On peut se servir de Dieu, du nom de Dieu, etc. On peut le mettre de différentes façons. Et on sait bien que dans les 10 commandements, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Là, c'est véritablement une application de ce que nous disons. L'Éternel est vivant et il va prononcer un jugement à ce moment-là, David, d'une manière impitoyable. Et il dira, mais l'homme qui a fait cela mérite la mort. À ce moment-là, David pense que c'est une histoire vraie. Nous, on sait que c'est une parabole, mais c'est une histoire vraie. Il se dit, moi, je suis le roi. S'il y a quelqu'un dans mon royaume qui fait des choses comme ça, eh bien, moi, je dis tout de suite, en tant que roi, eh bien, faut le mettre à mort. C'est quand même quelque chose, hein. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et en plus, il prononce la sentence avant la mort, hein, parce qu'après, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Mais il dira, mais il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Mon pauvre David, tu ne sais pas encore que c'est toi? Tu ne sais pas que tu es en train de prononcer un jugement contre toi-même? Tu ne t'es pas aperçu, tu n'as pas fait la relation, toi, dans ta situation, dans laquelle l'immoralité dans laquelle tu es tombé, et dans le crime, tu n'as pas vu que... Alors, il ne sait pas encore pour l'instant, mais il va descendre de haut. Hein. Je ne sais pas s'il était sur le trône à ce moment-là, mais il va certainement trembler, hein, quelques instants. Hein. Pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié, jugement, sans recul, sans miséricorde. Et la suite est quand même assez particulière. Hein. Ça étaye le principe que Jésus m'a dit, ne jugez pas. Parce que vous serez jugé de la manière dont vous avez jugé. On vous mesurera avec la mesure que vous serez servi. Et quand même, on veut notre bien personnel, non? On ne va quand même pas s'exposer devant les devant le mur des fusillés. Hein. Non, non, pas du tout. Hein. Eh oui, mais il ne fait pas le rapport, David. Il est complètement pris dans son affaire. Et il reprend sa position hautaine de roi. Bien que c'était pas un orgueilleux, hein. C'était quand même un homme assez humble. Mais là, de toute façon, quand on perd la tête, on est capable de tout. Hein. C'est vrai, ça peut arriver. Hein. Enfin bon, toujours est-il que Nathan, il entend ça, mais Nathan savait, lui. Quand il est venu, il savait très bien. Hein. Nathan dit à David, le prophète dit à David, tu es cet homme-là. Waouh. Alors là, ça lui a ouvert les yeux. Vous savez, ça fait un peu comme Jésus et la Samaritaine. Vous savez l'histoire, là de... Il va lui dévoiler, mais Jésus n'est pas venu pour la condamner, cette femme qui est une courtisane, qui est une femme, bon, à la vie légère. Il n'est pas venu pour la condamner, il est venu pour la sauver, précisément. Et petit à petit, dans Jean, chapitre 4, il va lui dévoiler, petit à petit, il va lui dévoiler sa vie passée. Parce qu'elle dira, bien, Jésus lui dira, mais, eh bien, moi, je voudrais voir ton mari. Et là, elle est bien embarrassée, elle aussi, parce que... Elle n'a pas eu un mari, elle n'a pas eu deux, elle n'a pas eu trois, elle n'a pas eu quatre, elle n'a pas eu cinq, et le sixième n'est pas encore son mari. Qu'est-ce qu'elle attendait pour se marier? Mais toujours est-il que là, c'est pas fait pour la condamner, mais c'est fait pour susciter un réveil de conscience chez elle. Pour susciter une réaction dans sa conscience. L'éveiller à une autre dimension. Et cette femme va véritablement ouvrir son cœur, ouvrir sa vie, et là elle va comprendre qu'elle n'a pas affaire à un simple juif appelé Jésus, mais elle a offert à un prophète. Et elle va en arriver à un moment donné à voir que ce n'est pas seulement un juif, ce n'est pas seulement un prophète, mais c'est le sauveur du monde. Crescendo, ça monte en crescendo, dans la révélation qu'elle va avoir de celui qui lui parle et qui lui a dit « Mais je te donnerai de cette eau vive, toi qui as soif, hein, et qui comblera toutes tes aspirations non seulement matérielles, mais tes aspirations affectives et sentimentales, tes aspirations morales. Et puis aussi, tu vas découvrir qu'il y a une autre dimension, les aspirations spirituelles. Cette femme va revenir avec un témoignage. Ne serait-ce pas le sauveur du monde? C'est ce qu'elle dira à la fin. Toujours. Elle est descendue, elle était bien bas, et elle monte. David, lui, croyait être en haut, parce qu'il savait qu'il était en haut, il était le roi, et il va descendre à travers sa faute. Mais on va voir qu'on est capable de remonter, parce que Dieu est un Dieu qui pardonne toutes les fautes des hommes. Toutes les fautes des hommes, il pardonne. Il pardonne autrement que nous pardonnons. Quelquefois, nous disons aux gens, ben, vous connaissez la maxime, hein, je te pardonne, mais j'oublie pas. Alors donc, ça sert à rien, pas à grand chose, si nous gardons quelque chose dans notre tête. Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Là, je pense que, pauvre David, qui avait l'habitude quand même, c'était un guerrier, c'était un combattant, c'était un homme vaillant, hein. Là, il a dû trembler, hein, certainement, il savait certainement pas où se mettre. Et le prophète continue, et lui dit, mais ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et il va lui rappeler les bontés que tu as eues avec lui. Parce que David, à l'origine, c'était le dernier de la famille d'Isaïe. C'était le petit dernier qu'on n'aurait pas choisi pour devenir le roi d'Israël. Il était le dernier des derniers, il était le plus petit, il était le plus jeune. Et Dieu l'a pris finalement alors qu'il n'était qu'un petit berger d'une famille pauvre. Et il en a fait véritablement le grand David, le grand roi d'Israël qui demeure encore aujourd'hui le grand roi. Quoi qu'il en soit, dans la mémoire biblique, mais aussi chez les juifs aujourd'hui. Et Dieu l'a élevé et il lui rappellera, mais j'étais bon avec toi David, tu n'étais rien et maintenant tu es devenu roi. Tu es devenu un homme considérable, tu es devenu un grand homme, David. Alors, Dieu lui dira, mais je t'ai pris pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül, le roi qui voulait le mettre à mort et qui l'a poursuivi pendant 17 ans de sa vie et qui n'a jamais pu le toucher parce que Dieu protégeait David. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Après que Saül soit mort, tu es venu, toi, le roi d'Israël. Une autre dynastie. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Quand un roi disparaissait, il avait l'héritage du harem de celui qui était avant. Bah, dites donc, ça faisait du monde, hein. Toujours est-il que, je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Dieu lui dit, mais je te l'ai donné, cette maison. Tu n'étais rien. Tu n'étais qu'un pauvre paysan, un pauvre berger d'Israël. Et moi, je t'ai donné tout ça. Tu es devenu un homme riche. Tu es devenu un homme avec de la puissance, de l'autorité. Et Dieu ajoute, David, mais si cela avait été peu, pourtant il y avait beaucoup de choses, je t'en aurais donné encore davantage. On voit toute la grâce et la miséricorde d'amour de Dieu pour ses sujets, pour ceux qui l'honorent, ceux qui le prient, ceux qui le glorifient, ceux qui l'adorent. Ce qui était le cas de David pendant une grande partie de sa vie, très longtemps d'ailleurs, et même jusqu'au bout. J'aurais encore donné, encore ajouté, et dans la parole, d'ajouter ceci, mais pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Eh oui, pourquoi donc as-tu méprisé en faisant ce qui est mal à ses yeux? David, tu as fait mal. Tu as pris une femme qui était la femme d'un autre. David, tu as tué son mari pour pouvoir avoir la liberté de pouvoir l'épouser. C'est ce qui s'est passé quand même après. David, pourquoi tu as menti? Pourquoi tu as dissimulé à tout ton peuple qui n'était pas dupe, mais de ta faute? Parce que t'avais peur de ta réputation, mais ta réputation, elle était déjà par terre à ce moment-là. Il y a que toi qui ne voyais pas. Tu t'es fait illusion de toi-même. Parce que le mensonge, c'est ça, hein. Ouais, les menteurs, eh bien, ils s'imaginent qu'ils disent la vérité. Ils sont tellement convaincus. Mais alors, les autres, ils savent que c'est le mensonge. C'est une illusion, tout ça. Alors, après, le réquisitoire continue. Tu as frappé de l'épée. Parce que c'est pas les ennemis qui ont tué Uri. C'est sûr qu'il y a une flèche de l'ennemi qui est venue. Mais c'est toi qui as donné l'ordre qu'Uri soit exposé pour qu'il meure. Tu as pris la femme. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Il était marié. Elle était mariée, naturellement. Elle n'a pas eu droit à grand chose, hein, finalement. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. C'est terrible. Là, en disant ces paroles, nous voyons qu'il y a un effet miroir. Tu es cet homme-là, David. Un effet miroir. Il commence à se regarder en face. La réalité se présente à lui d'une manière brutale. Et le voile se déchire. Il s'aperçoit que la parole de Dieu donnée par le prophète, c'est la vérité. Ce que lui n'a jamais voulu voir pendant des mois et des mois, mais on est en train de lui montrer. Le voile se déchire. Et sa conscience s'ouvre. Se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Dans quelle situation je me suis mis? J'ai fait couler le sang innocent. J'ai enlevé une femme à son mari et j'ai raconté devant mon peuple toutes sortes de choses qui n'étaient pas la vérité, tout le monde le savait. C'est terrible. Toi, l'accusateur, tu es cet homme-là. Toi qui accuses. Toi qui portes un jugement. Cet homme mérite la mort. Cet homme rendra ceci et cela parce qu'il a fait une telle chose. Non. tu as prononcé toi-même ton propre jugement. La parole de Dieu, la Bible, l'Évangile, c'est quelque chose d'extraordinaire en sagesse. Les choses se retournent. C'est pour ça qu'on dit que la Bible, c'est un miroir. Oui. Elle n'est pas faite pour nous faire peur ou nous terroriser, elle est faite pour nous montrer comme nous, tels que nous sommes. D'ailleurs, c'est l'apôtre Jacques qui le dit. La parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui vient et qui se regarde dans une glace, dans un miroir, et il voit tel qu'il est. Non pas pour désespérer, non pas pour dire « Ah ben, je suis... Il y en a qui se trouvent beaux, hein, mais bon... hein, » mais c'est pour dire « Il y a peut-être quelque chose à changer dans ma vie. Il y a peut-être quelque chose. » Et la Bible, dans ses mots, dans ses avertissements, dans ses promesses de relèvement, dans le pardon de Dieu, c'est pour dire « Eh bien, voilà, il y a quelque chose qui peut changer dans ma vie. » Parce que pour nous-mêmes, on ne pourra jamais se changer tout seul. Hein. Jamais. On pourra faire tous les efforts, on pourra se meurtrir, on pourra se mortifier, on pourra faire toutes sortes de choses, on n'y arrivera jamais parce qu'on n'a besoin que de Dieu pour cela. On a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de la faveur de Dieu, on a besoin de croire au pardon de Dieu. C'est pour ça que quand on demande pardon à Dieu, il faut croire que Dieu nous a pardonné puisque nous avons demandé sincèrement pardon, mais après il faut se pardonner nous-mêmes. Et ça c'est encore une autre paire de manches, je ne sais pas pourquoi on dit ça. Hein, c'est difficile de se pardonner soi-même et puis d'aller demander pardon à ceux à qui nous avons fait du mal. Et voilà, c'est ça le processus. Donc un effet miroir, toi l'accusateur, tu es cet homme-là, David, mais où tu en es? Tu ne t'es pas rendu compte que tu es en train de juger et que toi tu es véritablement sur le tribunal? Tu es sur le tribunal. Alors Dieu va lui dévoiler la vérité cachée. Donc on a lu les bontés de Dieu à l'égard de David, et le mépris de celui-ci, comme nous l'avons lu tout simplement, là, dans les quelques versets, à travers la lecture que nous avons. Et il y a le rappel des fautes, naturellement, à partir du verset 9, hein, et Dieu lui dira, mais pourquoi as-tu donc méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé, naturellement, tu as pris sa femme, etc., etc. Et nous apercevons que il va y avoir après, le rappel de ses fautes, il va y avoir le verdict juste. C'est pas exagéré. C'est à la mesure dont David s'est comporté et à la mesure surtout dont il a jugé. Parce que je voudrais quand même vous dire que si David avait fait tout le parcours là de dégringolade, hein, tout ce qu'on a cité, etc., s'il s'était abstenu de juger, mais le problème c'est qu'il a ajouté un quatrième ou un cinquième délit, c'est qu'il a jugé dans cette affaire. C'est ça, il a aggravé son cas, en quelque sorte. Parce qu'il aurait pu passer par tout le circuit dont nous l'avons lu, hein, adultère, hein, crime, etc., etc. Mais c'est qu'après, il a porté un jugement. Et c'est ce que Jésus nous dit dans le principe. Ne jugez point. Ne jugez point. C'est important. Alors, maintenant, dit Dieu, c'est le verdict qui tombe, hein, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Et c'est vrai, quand on voit l'histoire subséquente de la vie de David dans ce qui nous est dit dans les livres historiques de la Bible, il a eu des guerres avant. Mais à partir de ce moment-là, il va en avoir deux fois plus. Des guerres, il va en avoir. Il va en avoir avec ses ennemis d'alentour, mais il va en avoir avec ses propres fils. On connaît l'histoire d'Absalom. On connaît l'histoire de Tamar et Amon. Voilà. Et ça va être quelque chose de terrible pour David, ce père, qui va voir finalement la division dans sa propre famille. Ça va être terrible. La guerre va être partout. Hein. C'est pas que Dieu voulait la guerre, mais c'est que lui, il a amené la guerre. Il a amené le feu dans sa propre maison. Il a amené le feu dans son propre pays avec les ennemis d'alentour. Alors, parce que tu as pris, et ça c'est dans le dossier du jugement, parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. C'est terrible de lire des choses pareilles. C'est effrayant et moi je me mets à la place des gens qui lisent la Bible pour la première fois. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh oui, je vais faire venir le malheur. Alors que dans la Bible, dans les psaumes, même les psaumes de David et dans bien d'autres textes, il est question de bonheur heureux. C'est les béatitudes. Alors, on pourra toujours dire, ah, votre Dieu c'est un Dieu de sang. Non, il y a sur la première page de ma Bible, la Sainte Bible, je dis encore une fois, Je vieillis, je me répète. Mais c'est marqué la Sainte Bible. Et il y a des gens qui oublient ça et disent, mais votre bouquin, là, hein, votre Sainte Bible, elle n'est pas si sainte que ça, regardez ce qu'il y a dedans. Non, le problème, c'est que la Bible, la parole de Dieu, elle est sainte. Et c'est que les hommes se comportent, eux, d'une manière complètement à l'inverse. C'est pas Dieu qui est malsain. C'est les hommes qui sont malsains. Parce que finalement, ils font le contraire. Ah, ils vont à l'encontre de leur propre bonheur. Heureux serez-vous. Et c'est vrai que nous trouvons des situations, et ça c'est, ce sont des leçons, ce sont des applications du comportement humain pour nous montrer que quand on fait le mal, quand on pratique le mal, eh bien il y a toujours des conséquences. Quand vous semez du blé, vous allez récolter du blé. Si vous semez de l'ivraie, vous allez récolter de l'ivraie, c'est normal. Jésus le dira souvent, hein. On ne cueille pas des raisins sur des épines. Hein. Parce que ça va avec la nature des choses. La nature du bien engendre le bien, la nature du mal engendre le mal. Comment vous pensez et comment peut-on espérer que quand on fait le mal, on va récolter le bien? Si, il y a quand on se repent, on en parle d'ici quelques instants, quand on demande pardon. Alors à ce moment-là, les choses sont changées. C'est pas nous qui les changeons, c'est Dieu qui est capable de les changer. Le malheur, eh bien, se battra contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. Vous connaissez l'histoire de David? Qui est chassé par son propre fils du palais, qui s'appelle Absalom. Qu'est-ce qu'il a fait, Absalom? Il a pris toutes les femmes et les concubines de son père. Affreux. Là, on peut dire que c'était très malsain aussi, hein, pour se venger de son père. Enfin, c'était des temps anciens. Hein. Je ne sais pas si ça existera encore aujourd'hui. Bon, je ne vais pas me prononcer. Hein. Mais, car tu as agi en secret, et c'est vrai, là, Dieu est en train de juger non seulement son adultère, il a jugé son crime, mais il est en train de juger son mensonge et sa dissimulation. Tu as agi en secret, David, et moi je ferai cela en présence de tout Israël. Ce que tu as caché dans les ténèbres, ben moi je le mettrai en lumière. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. Quand Jésus nous dit, par exemple, dans Jean, au chapitre 3, oui, ça doit être au chapitre 3, que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Eh bien, quand on vient à la lumière, qu'on se met et qu'on s'expose à la lumière, même si nos œuvres sont mauvaises, alors à ce moment-là, qu'on vient vers le Seigneur et qu'on lui demande pardon, eh bien les ténèbres vont disparaître et on sera vraiment dans la lumière. C'est autre chose, hein. C'est autre chose. Alors, le verdict juste, parce que le mal entraîne toujours le mal et produit le mal, et parce qu'il y a toujours des causes et des conséquences, et j'en termine avec le verset 13, David dit à Nathan, et là ça va vite, hein. Je peux vous dire qu'il n'a pas, en disant à Nathan, tu sais, il faut que je réfléchisse encore pour ce que j'ai fait, je ne me souviens pas de tout. Immédiatement, le prophète lui dit, voilà, tu es cet homme-là. Après lui avoir exposé sa situation, David n'a qu'un mot. Il n'a qu'un mot. J'ai péché. J'ai péché contre Dieu. Ça nous rappelle un peu l'histoire du fils prodigue. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue? Dans Luc, chapitre 15. Le garçon qui est un garçon d'une famille riche qui va faire un petit tour là, batifolé de droite et de gauche parce que il a envie de respirer de l'oxygène autrement que le milieu familial. Il va tomber dans la disette, il va tomber dans la misère, il va tomber dans la corruption et quand il n'aura plus rien du tout, il va dire, mais tiens, j'avais ceci, j'avais cela dans la maison de mon père. Et si maintenant je revenais vers mon père et que je lui dise, je m'humilie devant lui et que je lui dis, je ne suis plus ton fils, mais traite-moi maintenant comme un de tes serviteurs, et je te demande pardon, alors vous connaissez la fin de l'histoire. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le père l'attendait pas avec une massue derrière le dos en disant, tu vas voir, tu vas payer tes dettes, hein, mon petit bonhomme, tu vas voir un peu ce que ça va te coûter. Hein. Non, ce père l'attendait pas avec une trique dans le dos, il l'attendait avec les bras ouverts, sans lui demander compte de toute sa vie qu'il avait gâchée, et il l'a pris dans ses bras, il l'a embrassé, il lui a donné une robe nouvelle, il lui a donné des souliers neufs, il lui a mis un anneau au doigt, qui est le signe de l'alliance, la nouvelle alliance. C'est beau, non? Ça vous laisse placide. C'est beau l'histoire de l'évangile, c'est quelque chose de formidable, mais c'est le comportement de Dieu, c'est le message de Dieu, ça. Il n'est pas venu contre les hommes, il est venu pour les sauver de ce qui est contre eux, et de ce qu'il laisse quelquefois les hommes montrer dans leur cœur. J'ai péché contre l'Éternel. On terminera par la lecture du psaume 51 tout à l'heure, parce qu'il faut le lire. Hein. Je vous ai parlé du 32, mais le 51, c'est quelque chose. On terminera en conclusion. Donc, l'Éternel Et là, il va avoir le retour de ce que Dieu maintenant, parce que quand il s'est repenti sincèrement, c'était pas, comment on dit, des larmes de crocodile. Et vous savez que ça pleure souvent, les crocodiles, parce qu'ils sont souvent dans l'eau, ils remontent. C'est quelque chose qui est assez, c'est typique, hein, voilà. Enfin, ils pleurent pas, hein, les crocodiles. Voilà. Donc, l'Éternel, donc Dieu va dire, en attendant, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Voilà. Puisqu'il avait prononcé que cet homme devait mourir. Vous savez, dans la parabole, cet homme doit mourir. Qu'il soit condamné à mort. Il avait prononcé un jugement contre lui. Vous savez, ça se tient, hein. Quand on fait, comme on l'appelle, de l'exégèse du texte, on s'aperçoit que tout est au millimètre. Tout est bien calibré. Tout est bien conditionné. Il y a une question, il y a une réponse. Une question, une réponse, etc., etc. C'est formidable, hein. Moi, je dis que la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Extraordinaire quand on la regarde dans le détail. Alors, Nathan va lui donner la bonne nouvelle. L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Malgré toutes les fautes qu'il avait faites. Ça, c'était l'Ancien Testament. Vous savez que ça lui coûtait la vie à David. Même fut-il le roi d'Israël. Fut-il le roi d'Israël. Dieu pardonne ton péché, tu ne mourras point. Tout simplement. Mais il y a toujours des conséquences à notre peine. Comme le fils prodigue a eu des conséquences aussi. Il est revenu en haillon, il est revenu là, dans une misère, avant de retrouver la vie, naturellement, mais il nous a dit, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis d'Israël. C'est parce qu'avec une histoire comme ça, les peuples aux alentours, le roi d'Israël, l'homme qu'on appelle David, qui était connu par tout le monde comme un adorateur du Dieu, le Dieu vivant et vrai, commettre une chose pareille, tuer, faire un meurtre comme ça, sans cause, sans raison, simplement pour son égoïsme, c'était quelque chose qui avait fait rire les autres, vous savez. C'était une histoire, on dirait aujourd'hui, croustillante, et tout le monde disait, ah, voilà le Dieu d'Israël. Regardez, si c'est ça, ce Dieu-là, ben nous, on veut pas, on préfère encore nos idoles et toutes sortes de choses. Puisque tu as fait blasphémer les ennemis d'Israël en commettant cette action, vous savez comment ça va se terminer? C'est que quand David a pris Bathsheba, la femme dont nous avons parlé, il a consommé naturellement, elle était enceinte, et elle a donné naissance à un enfant. Et c'est cet enfant-là qui est mort. On dira innocent, bien sûr. Je voudrais vous dire que, partiellement, Bathsheba était innocente, on lui a pas demandé son compte. C'est le roi d'Israël qui l'a... Voilà. Et l'enfant est mort. Il y a toujours des conséquences, c'est terrible, hein, mais bon, on peut toujours dire cela. Mais ce que je voudrais, avant de lire le psaume 51, écoutez, on va réillustrer un petit peu les choses dans Matthieu, et je voudrais quand même, parce que c'est important, c'est le principe qui est important, parce que c'est de l'enseignement quand même que l'on fait un peu ce soir, hein, l'enseignement biblique. Hein. Quand il est dit cette parole, alors c'était Luc, oui, c'était Matthieu chapitre 7, hein, que je retrouve rapidement, et il est simplement joli. « Vous ne jugerez point, alors on a eu l'illustration, afin que vous ne soyez point jugés. » David est tombé dans le panneau, dans le piège. « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Et le vieil adage est là. Pourquoi tu vois la paille qui est dans l'œil de ton voisin? C'est déjà gros une paille, hein. Alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans la tienne. L'énormité. Et c'est vrai, quelquefois, la nature humaine, elle est comme ça. On fait des choses, on dit des choses, on a des actions, mais qui sont énormes, comme une poutre. Et tu te permets de dire, non, regardez, il y a une paille dans son œil. Quelle disproportion entre une paille et une poutre. Hein. Heureusement que dans nos maisons, on ne fait pas des poutres avec des pailles. Hein. Quoique monsieur connaît un peu le... en tant que chaumier. Ouais. Ben oui, hein. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, mais enfin, bon, il y a un petit peu de morceaux de paille quand même. Eh oui, il y a un peu de paille dans l'ingrédient. Hein. Je terminerai, si vous voulez bien, par le psaume 51. Vous voulez? Et ça, c'est le vrai repentir, parce que tout à l'heure, quand il a dit « j'ai péché », mais c'était sincère. Alors, on va le lire brièvement, et on terminera. Psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, on revient toujours à la même histoire, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Et il dit ceci, c'est une prière, c'est vraiment une belle prière, c'est peut-être une des plus belles prières de la vie. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, de ma faute, de mon péché, et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. C'est ça, les reconnaître. Il le dit, j'ai péché. Et mon péché est constamment devant moi. Ça m'a tourmenté, c'est un feu à l'intérieur. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. David était tout à fait conscient de sa culpabilité. Il dit maintenant, Seigneur, tu fais ce que tu veux avec moi. Si je dois vivre, je vivrai. Si je dois mourir, je mourrai. Mais j'accepte de mourir parce que, véritablement, je le mérite. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. C'est la nature humaine de tous les hommes depuis qu'Adam est venu sur la terre. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Voilà où les choses changent. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Parce que le péché nous rend malade même physiquement. On pourrait dire psychosomatiquement. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, on le chante ça. Hein? Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Parce que quand on n'a plus l'Esprit de Dieu, on est malheureux, on est mort. On est mort. L'Esprit, c'est ce qui nous fait vivre. L'Esprit Saint de Dieu. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Maintenant, je ne veux plus pécher. En tous les cas, je ferai un effort pour plus pécher. J'en ai même plus envie. J'enseignerai tes voies à ceux qui la transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Parce que lui, il en a fait la pire expérience. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras les sacrifices de justice. Les holocaustes et les victimes tout entières, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous donne vraiment de pénétrer, de comprendre la véracité de cette parole, l'authenticité de cette parole, parce que les uns et les autres, nous avons besoin du pardon et de la grâce de Dieu. Encore une fois, on peut commettre beaucoup de fautes dans notre vie, on peut faire des erreurs monumentales. Mais quand on s'approche de Dieu et qu'on lui demande pardon, Dieu oublie. Il oublie tout. Et nous pouvons repartir à zéro. On l'a chanté tout à l'heure. Hein? Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. C'est ça ce qui est formidable dans l'évangile. C'est qu'on y croit. C'est d'y croire qui est important. Et d'une vie cachée, d'une vie tourmentée, d'une vie qui a été corrompue, qui a été souillée, salie. Eh bien, Dieu peut en faire un saint. Il peut en faire un homme, une femme complètement changée et transformée. Et ça, c'est la grâce du Seigneur. Mais, ne jugeons pas, parce que on l'a vu avec l'histoire de David, ça peut nous emmener très loin. Mais David en est revenu, parce que c'était un homme qui avait la sincérité dans le cœur, et il le dit, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. C'est tous les jours dont nous avons besoin de ça. Que Dieu nous bénisse, on va prier quelques instants. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que ta parole, elle est explicite. Ta parole, elle est claire. Elle est faite, Seigneur, pour être comprise de tous les hommes, quels qu'ils soient, dans tous les temps, dans toutes les générations, dans tous les siècles. Et nous voulons, Seigneur, te rendre grâce et te remercier qu'il y ait de telles histoires. Il y a de belles histoires, il y en a de moins belles, mais même, comme nous l'avons vu ce soir, même si quelquefois, le comportement de David a été un comportement laid, abject, et bien parce qu'il s'est tourné vers toi, il a pris conscience du mal qu'il avait commis, il est revenu à toi, et toi, tu lui as pardonné. Tu l'as sauvé, et tu lui as redonné une vie nouvelle. Et nous t'en bénissons et nous te remercions. Parce que ce qui est important, Seigneur, c'est que véritablement nous soyons animés d'un esprit pur, et d'un esprit de bonne volonté, un cœur pur et un esprit de bonne volonté. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Et nous te remercions, aide-nous à marcher avec toi, aide-nous à croire en toi, aide-nous à aimer ta parole. Aide-nous à nous laisser instruire, Seigneur, sur des choses qui sont tellement évidentes dans notre vie d'homme sur cette terre. Merci notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.
pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.